RFI et France 24 présentent
Mardi politique.
Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Mardi politique sur France 24 et RFI. Ce soir, notre invité, c'est Laure Lavalette. Bonsoir.
Bonsoir, Frédéric.
Député de la deuxième circonscription du Var. Alors, la séance de questions au gouvernement qui a eu lieu en début d'après-midi, comme tous les mardis à l'Assemblée nationale, a été relativement agitée. On pouvait d'ailleurs s'y attendre un peu après le vote sur les motions de censure hier. Est-ce que vous pensez que cette assez rude séquence de la réforme des retraites va durablement peser sur la suite des travaux parlementaires?
C'est certain. Chez nous aussi, du coup, c'est mardi en politique, le mardi à l'Assemblée. Bah, c'est certain que je pense que la séquence que nous venons de vivre, qui a quand même été d'une brutalité inouïe, on aura peut-être l'occasion d'en revenir, mais ne serait-ce que par le véhicule législatif qui avait été choisi, le fait qu'on soit contraint dans le train.
Pour que ce soit clair, véhicule législatif, c'est le fait que c'était dans le cadre d'un projet
c'est
de loi rectificatif.
Alors qu'il n'y avait aucune urgence, donc nous étions contraints aussi parce que le gouvernement avait déclenché une autre procédure qui nous donnait que 10 jours pour pouvoir avoir des débats et nous ne pouvions pas créer de charges. C'est-à-dire nous ne pouvions pas dérouler notre programme puisque nous ne devions pas coûter d'argent. Donc ça, c'était déjà une première brutalité pour les départements, enfin pour les parlementaires que nous sommes. C'était déjà assez brutal d'être contraint. Et puis ce 11e 49-3, je veux dire, c'est pas un premier 49-3, c'est 11 depuis le 19 juin. Et je pense que...
Alors il faut rappeler que sur les textes budgétaires, il n'y a pas de limite à l'utilisation du 49-3.
Alors il n'y a pas de limite légale, mais je pense qu'il y a une limite à la tolérance au bout d'un moment du français et du parlementaire. Et je pense que ce dernier 49-3, si tant est qu'il y ait déjà eu un lien véritable entre le peuple français et Macron, je pense qu'il a mis un coup d'arrêt. Je pense que les Français sont exaspérés de la façon dont ça s'est passé. Et puis encore une fois, je vous dis, ça s'inscrit dans une brutalité, dans des ministres qui ont été sourds, qui n'ont pas voulu répondre à nos questions. Olivier Dussopt qui porte le texte et qui dit « Je n'ai aucun compte à rendre à la représentation nationale que vous êtes ». Bon, assez étonnant.
Sur la question des 1200 euros.
Voilà. Après, deux autres ministres... Enfin, lui et Bruno Le Maire refusent de donner des réponses vraiment claires et concrètes sur les carrières longues. Combien ça va coûter? Est-ce que c'est 43 annuités, 44? Pas de réponse. Enfin, donc il y a quand même un climat de brutalité qui s'est terminé en apogée, j'allais dire, avec ce 49-3. Et Elisabeth Borne, tout à l'heure, qui arrive en QAG, qui dit, ben voilà, c'est une victoire.
Question au gouvernement.
Question au gouvernement, qui arrive en disant, voilà, après la victoire d'hier... Oui. Bon, 9 voix. La motion de censure n'est pas passée à 9 mois.
À neuf voix.
Je pense qu'effectivement, on est loin d'une victoire.
Votre collègue du Rassemblement national, Sébastien Chenu, député, vice-président de l'Assemblée, a demandé tout à l'heure à l'Assemblée, donc lors des questions au gouvernement, à la Première ministre de partir. Et vous-même, ce matin, vous avez dit aussi il est évident que Elisabeth Borne doit partir. Mais pourquoi devrait-elle partir puisque son gouvernement n'a pas été renversé? Vous lui demandez de partir comme si la motion de censure avait été adoptée. Alors certes, c'est vrai que c'était juste, mais c'est passé.
En fait, factuellement, évidemment, 9 voix, j'allais dire, elle peut rester légalement. Mais est-ce que politiquement, c'est envisageable? Je ne crois pas. Après une telle brutalité, après avoir passé en force un texte dont personne ne veut. Je vous rappelle, 70% des gens n'en veulent pas. La contestation est dans la rue. La majorité des parlementaires n'en voulaient pas, parce que sinon, ils n'auraient pas eu recours au 49-3.
Mais si Elisabeth Borne part, ça change quoi, en fait?
Puisque c'est
la réforme d'Emmanuel Macron, cette
c'est
réforme.
C'est sûr que si elle est remplacée, même par une autre... Elisabeth Borne, qui n'entendra toujours pas le peuple, ça n'a pas de sens. Mais en fait, c'est un changement de paradigme qu'il nous faut. Je pense qu'il faut qu'Emmanuel Macron se rende bien compte qu'on ne peut pas brutaliser son peuple comme ça. On ne peut pas passer en force. Après, pour Yann Mitton, je vous rappelle quand même que le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a quand même fait 3 bras d'honneur dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, un président de groupe, et qu'il
Olivier
n'a pas
Marlex,
démissionné pour autant,
ce
qui paraît quand même complètement aberrant. Mais je pense, au-delà de ça, dans une démocratie mature et normale, quand vous avez un projet de loi qui est à ce point là, honni et par les Français et par la représentation nationale, on le prend et on le met à la poubelle. En fait, on respecte ce peuple, ou du moins on sort par le haut et on fait un référendum, hein, parce qu'ils ont utilisé beaucoup d'articles, mais pas l'article 11 de la Constitution, qui aurait permis effectivement que ça passe devant
Alors,
le peuple.
On se demandait
français.
Depuis quelques jours si Emmanuel Macron allait s'exprimer ou pas. On sait depuis ce matin qu'il va le faire, ce sera demain midi. Il répondra aux questions de nos confrères de France 2 et de TF1 dans le journal de 13h, qui une forme d'originalité, puisque généralement c'est plutôt dans le 20h, qui est le grand journal du soir. Qu'est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron va venir dire aux Français, dans la mesure où on sait qu'il ne va pas annoncer ni dissolution, ni remaniement, ni référendum?
Bah rien.
Il va venir expliquer la réforme.
Il va venir expliquer sa victoire. Je pense qu'il va venir dire au peuple français voilà, la victoire qui a été la sienne et celle de son gouvernement. Et il va le faire devant les retraités et la France, j'allais dire, des provinces. Il ne parle pas à l'ensemble de la nation. Demain, il essaye de refaire un peu corps avec son électorat.
On parle de l'idée que le journal de 13h est plus regardé par les retraités que par les actifs.
Quand vous êtes
en pause déjeuner,
sur votre travail, oui, mais c'est pas toujours simple de regarder, de regarder le 13h et tout le monde ne rentre pas chez soi à déjeuner. Donc il y a là aussi une certaine... voilà, ils ont réfléchi, j'imagine bien, et je pense qu'il faut essayer de resserrer un peu son électorat. Il va reparler aux retraités, puisque finalement, c'est tout ce qui lui reste, dans la mesure où la France est contre lui. Il n'y a qu'à voir les scènes de chaos qui sont terribles qu'on est en train de voir. Emmanuel Macron est l'artisan de ce chaos que l'on voit dans la rue. Il n'est, j'allais dire, que la brutalité. Mais souvenez-vous, depuis son premier quinquennat, hein, je veux dire, on avait vu quand même des images de fractures de sociales assez importante. On avait eu les policiers contre les infirmières, souvenez-vous, des images qui étaient quand même rarement vues dans une démocratie comme la nôtre. Donc je pense que cette brutalité, finalement, est la marque de fabrique de son premier et là, de son début de quinquennat.
Alors on reviendra sur les manifestations qui ont commencé depuis quelques jours maintenant, et souvent spontanément d'ailleurs. Le Rassemblement national a saisi le Conseil constitutionnel. Vous vous y êtes vous-même rendu ce matin, donc sur la validité de ce texte, la réforme des retraites. Sur quel point précis vous espérez obtenir gain de cause ?
Alors, c'est un ensemble de points. Il y a plusieurs axes. Le premier, déjà, c'est justement ce véhicule législatif. Ouais. C'est le fait que ce soit un article du projet de loi de finances de la Sécurité sociale rectificatif et pas une loi à part entière, alors qu'il n'y avait pas du tout péril en la demeure. Le fait aussi que nous ayons été contraints dans le temps.
L'article 47.1.
Exactement. Qui disait que, voilà, vous avez 10 jours, on avait 10 jours, ça s'arrêtait le vendredi 17 février à 23h59. Où que nous en soyons de ce texte, l'examen de ce texte s'arrêtait, que nous l'ayons voté ou non, c'est quand même pour nous parlementaires une brutalité très forte. Il y a aussi les cavaliers législatifs, notamment l'index senior, dont nous avons passé que trop de temps.
Là aussi, il faut expliquer un cavalier législatif. Alors, c'est un texte qui n'a pas grand-chose à voir avec le texte dans lequel il vient s'inscrire.
Exactement, puisque cet index, et Charles de Courson, qui est quand même notre plus ancien parlementaire, a tout de suite dit, ça ne sera pas gardé par le Conseil constitutionnel. Et nous y avons passé un temps fou, 7 heures sur 28 heures en commission, et pratiquement 4 jours sur les 10 jours qui nous étaient impartis. Autant vous dire que nous avons quand même perdu notre temps. Et dans ce temps contraint, on pense aussi que le fait que l'exercice, si vous voulez, du droit d'amendement par la NUPES était excessif. Alors en principe, ça ne l'est pas, puisque ce droit d'amender est constitutionnel. Il n'empêche que dans un temps contraint, on peut penser que ces 17 000 amendements ont évidemment fait entrave à l'examen du texte. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le secrétaire général, l'ancien secrétaire général du Conseil constitutionnel.
Mais ça, vous ne pourriez pas en tenir le gouvernement pour responsable?
Ah bah, en tout cas, ça va faire partie des choses qui peuvent invalider ce texte.
Considérer que le texte n'a pas pu être débattu dans des conditions
normales. Nous avions dit aux Français que tous les moyens qui sont en notre disposition seront utilisés. Et puis, vous savez, les Français sont très attentifs à la façon dont ça s'est fait. Ils sont attentifs, évidemment, à l'issue et au fait qu'ils vont devoir travailler 2 ans de plus, qu'ils vont arriver à la retraite avec des décotes, plus jamais de surcotes, avec des critères de pénibilité en moins. Tout ça, évidemment qu'ils le savent, mais ils ont aussi vraiment l'impression d'avoir été floués, d'avoir été brutalisés. Et je pense que de porter cette revendication devant le Conseil constitutionnel était aussi ce que l'on devait, évidemment, aux Français.
La chef du gouvernement, Elisabeth Borne, a annoncé elle-même qu'elle allait transmettre le texte au Conseil constitutionnel. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Qu'au fond, elle est très sereine sur l'avis du Conseil ?
Ouais. Écoutez, peut-être, on ne sait plus bien où est-ce qu'ils habitent. Je pense qu'ils ont été le vent du boulet passé près quand même, quand la motion de censure ne passe pas à 9 voix près. Je pense qu'ils s'attendaient plus à une trentaine de voix près. Donc je pense que ça a été une espèce de réaction de dire, vous allez voir, on va le passer devant le Conseil. Si jamais ça passe, au moins ça va légitimer cette réforme. Mais en tout cas, encore une fois, je vais vous dire, cette brutalité, je pense qu'elle va entacher ce deuxième quinquennat Macron d'une marque assez indélébile avec le rapport avec les Français.
Comment vous voyez évoluer maintenant ce mouvement social qui a commencé il y a des semaines après l'adoption dans les conditions dont on vient de parler de cette réforme des retraites?
Bah, évidemment, je suis inquiète. On est tous inquiets. On sait le terreau sur lequel ce mouvement social arrive. Il y a un Français sur trois qui ne mange pas à sa faim. Il y a des étudiants aux banques alimentaires. Les Français ne se chauffent pas. Ils choisissent entre dîner ou se chauffer. Vous avez reçu comme nous vos factures avec une inflation quand même qui est assez délirante. Le litre d'huile est à 5 euros. Ça fait plus d'un an que le litre de gasoil est à 2 euros. Donc évidemment, tout ça, c'est très inflammable. Et Emmanuel Macron a mis de l'huile sur le feu, c'est certain. Moi, je vais vous dire, personnellement, moi, c'est mon premier mandat, donc je découvre un peu tout ça et je vous partage la frustration qui est la mienne dans la mesure où nous avions donné déjà pendant ces 10 jours des billes pour que cette réforme des retraites parte à la poubelle. Nous avons fait une motion référendaire tout de suite.
Tantôt, le gouvernement vous a régulièrement accusé, et hier encore, d'avoir été muet, de vous être planqué pendant tout ce débat.
Oui, bah, ils ont l'air aussi de découvrir que Marine Le Pen avait un projet pour les retraites. Alors, est-ce qu'ils ont vécu dans une grotte? Je n'en sais rien.
Le ministre du Travail a encore dit aujourd'hui, ou le ministre de l'économie, qu'il aurait coûté 26 milliards d'euros, que ça aurait été une catastrophe.
Alors nous l'assumons à 10 milliards d'euros de déficit, mais encore une fois, que ce soit les Mozarts de la finance, ceux qui ont laissé 600 milliards de dettes à la fin du premier quinquennat Macron,
un tiers de Covid,
c'est pas non plus les 600 milliards, et puis qu'ils viennent quand même de faire voter à leurs députés un budget à 150 milliards de déficit par an. Donc je pense qu'ils n'ont pas de leçon de morale à donner. Je finis simplement sur le fait que, voilà, moi, il y a vraiment une frustration parce que moi je suis là pour l'intérêt, le bien commun. Et je pense que moi j'aurais voté la motion référendaire si c'était LFI qui avait été tiré au sort. Et de me dire qu'ils ne l'ont pas fait, je me dis mais quelle occasion loupée. Mais c'est pas ça qu'on doit aux Français. Les Français attendent de nous une autre façon de faire la politique. Après, il y a eu la motion de censure spontanée. Et c'est un vrai regret que j'ai. Et je vais vous dire, ça s'est confirmé encore tout à l'heure aux questions au gouvernement où mon excellente collègue Caroline Parmentier a parlé de cette exposition pédopornographique au Palais de Tokyo.
Ce n'est pas une exposition pédopornographique, c'est un tableau qu'il considère vraiment caractère pédopornographique.
C'est pas tout le monde considère, à part l'artiste. Quand vous y allez dessus, tout le monde considère.
Pour vous dire, c'est vrai que c'est troublant.
C'est troublant. Enfin, je veux dire, il faut que les gens aillent le voir. Il y a un enfant ligoté les bas dans le dos, fait une fellation à un adulte. Même la ministre est arrivée à défendre ce tableau. Et c'est vrai que nous sommes levés pour applaudir. Et je me dis, mais tout l'hémicycle aurait dû se lever. Et c'est vrai que moi, je regrette encore parce que je découvre. Mais nous, on est là pour l'intérêt des Français, pas pour l'intérêt boutiquier.
Mais il y a un cordon sanitaire entre vous et la plupart des autres groupes, notamment LFI.
Vous avez bien vu quand même. Oui, enfin, à la limite, le cordon sanitaire avec ceux qui traitent les ministres d'assassins et ceux qui jouent au foot avec des ballons à l'effigie de la tête du ministre du Transport, du Travail, pardon. C'est pas que ça me va bien, mais à la limite. Alors, par contre, regardez, il y a des députés LR qui ont voté notre motion hier.
Il y en a trois.
Ils ont voté notre motion.
Alors, revenons sur la suite du mouvement. Est-ce que, donc précisément, le fait que le texte ait été adopté par le 49-3, que la motion de censure soit passée à un cheveu, et peut-être aussi qu'Emmanuel Macron s'exprime demain, peut-être sans annonce particulière, puisqu'on sait pas de remaniement, pas de référendum. Est-ce que ça peut relancer le mouvement, puisqu'il s'exprimera en plus à la veille d'une journée de mobilisation prévue jeudi?
Ce qui est très paradoxal, c'est qu'il ne cesse de mettre de l'huile sur le feu. Je vous le dis, Elisabeth Borne tout à l'heure, qui dit quelle victoire, quel culot d'arriver à dire que c'est une victoire. Et puis j'attends Emmanuel Macron, mais j'ai vu un micro-trottoir chez vos concurrents, chez vos confrères, et les gens n'en attendent plus rien. C'est terrible. On dit qu'est-ce que vous attendez d'Emmanuel Macron? Les gens sont là. Rien, en fait. En fait, plus personne n'attend rien. Et c'est vrai que ce désespoir, cette résignation, évidemment, moi, en tant que parlementaire, j'ai envie de secouer les gens en disant, mais non, il y a évidemment une solution, c'est le bulletin de vote. Et pour le coup, une espérance, ça sera Marine Le Pen en 2027, puisque je vous le rappelle, elle détricotera, si elle est élue, ce projet de réforme pour dérouler son programme. Vous savez, si vous avez commencé à travailler entre 17 et 20 ans, vous pouvez partir à la retraite à 60 ans avec 40 annuités. On pense que quand vous avez commencé tôt, on a le droit de partir tôt parce que ce sont souvent des métiers pénibles. Et si vous avez commencé après 20 ans, c'est jusqu'à 42 annuités et 62 ans de façon progressive. Donc ça, c'est un programme que nous mettrons marche.
Mais c'est pas tout, c'est dans 4 ans. Mais vous vous projetez déjà, en fait, vous êtes déjà dans cette...
C'est l'espérance qui reste.
Vous êtes déjà dans cet agenda-là, vous, c'est la présidentielle.
Je pense qu'après eux, ce sera nous, oui. Je pense que l'alternance, c'est évidemment nous. Et que du coup, la seule façon, si le Conseil constitutionnel dit que ce texte est constitutionnel, la seule espérance sera alors l'élection de Marine Le Pen en 2027.
Est-ce qu'il y a, donc pour revenir au mouvement social, est-ce que vous voyez un risque aujourd'hui que ce mouvement échappe totalement aux syndicats qui, jusqu'à maintenant, l'avaient très bien contrôlé? Le gouvernement l'avait d'ailleurs lui-même salué.
Surtout que j'ai l'impression que cette intersyndicale, elle tient que jusqu'à jeudi, a priori. Donc on va voir ce qui va se passer après. Puis moi, je ne voudrais pas que le gouvernement laisse s'envenimer les choses aussi. On le sait, il y a quand même des éléments perturbateurs dans ces manifestations qui sont souvent les mêmes. Et j'ai du mal à croire que, voilà, que le ministère de l'Intérieur ne sait pas qui ils sont, comment s'appelle leur grand-mère, combien est-ce qu'ils ont d'enfants et quel est le nom de leur chat. J'imagine bien qu'on a des services de renseignement territoriaux qui sont performants et je pense qu'on pourrait, si on voulait appréhender ces personnes malveillantes qui se mettent, qui se fondent évidemment dans ces manifestations. Mais je crois que c'est vieux comme le monde. Buisson, dans son bouquin après Sarkozy, disait que c'était déjà une technique Patrick utilisée Buisson, par Sarkozy. Et c'est vrai qu'il ne faudrait pas voilà, que le gouvernement laisse dégénérer pour essayer de repasser lui comme le parti de l'ordre, alors que c'est le parti du chaos, puisque ces scènes, je le rappelle, le point de départ de ces scènes sont bien l'adoption alors, en force de cette réforme
des retraites.
Vous parlez
peut-être, par exemple, des raffineries qui sont bloquées par des grévistes, notamment la CGT. Est-ce que vous soutenez, vous, aujourd'hui, ces grévistes ?
En fait, moi, que les gens aillent dans la rue, que les gens défendent leurs droits, c'est évident. Encore une fois...
Là, c'est pas de ça qu'il s'agit. On parle de blocage.
Voilà. Mais c'est vrai qu'arriver à bloquer le pays, moi, j'ai pas envie qu'on revive le mois d'octobre dernier. J'ai pas envie que ça ramène de l'inflation non plus. Parce que finalement, ce sont quand même, encore une fois, les plus précaires qui vont évidemment subir les conséquences. Donc, je pense qu'il faut aussi la prise de conscience de se dire que ce qui est utile, c'est de voter et que finalement, il n'y a pas de fatalité. Les choix qui ont été faits là, c'est parce qu'ils ont élu quelqu'un qui avait dit qu'il mettrait cette réforme aussi.
Oui. Mais vous proposez un horizon qui est un peu lointain, peut-être. Là.
Bah, qui est un peu lointain, j'en proposais déjà un l'année dernière, je vous rappelle, quand même souvent à votre micro. Oui. Mais dire aux gens, voilà, il y a, contre ça, il y a un espoir, c'est le bulletin de vote.
Est-ce que vous croyez au possible succès du référendum d'initiative partagée qui a été lancé par la gauche ? Le texte a été transmis hier au Conseil constitutionnel. C'est une procédure longue et un peu compliquée. Mais il faut notamment obtenir 4 700 000 signatures. Compte tenu de l'impopularité de la réforme, on pourrait se dire que c'est un objectif assez atteignable, non ?
Oui, mais le problème de ce référendum-là, c'est que l'issue, ça serait que ça redevienne devant les parlementaires. Et quand on voit la façon dont nous avons
été... Il y a la possibilité d'organiser un référendum.
Voilà,
mais qui n'est pas obligatoire.
Mais le référendum... Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, au final, ce qu'il faudrait, c'est que...
C'est référendum ou retour devant le Parlement.
Bien sûr. Et puis, il faudrait que, en fait, ça serait la seule façon, à mon avis, de sortir par le haut, c'est de reconsulter le peuple. En fait, on ne peut pas, en démocratie, arriver à gouverner contre le peuple. On voit bien, et ça rend les gens fous. Mais moi, je comprends que ça rende évidemment dingue quand vous n'avez pas à remplir votre frigidaire et qu'on vous dit, mais c'est pas grave, tu vas travailler deux ans de plus, ça va bien se passer. Non, en fait, ça ne va pas bien se passer. Et quand vous avez... Enfin, pourquoi ils ont fait le 49-3 ? C'est qu'ils savaient qu'ils n'auraient pas la majorité. Donc, c'est quand même une grande leçon aussi, si on peut faire la morale des derniers jours qui viennent de se passer. La première leçon, c'est celle-là. C'est qu'ils n'avaient pas la majorité, ils sont donc passés en force. La deuxième morale, c'est que Ciotti n'a plus aucun leadership sur cette famille politique qui n'existe plus. Les Républicains, voilà, sont sortis du bois ceux qui sont macro-compatibles et les autres courageux.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci Laure Lavalette et merci à Camille Nérand et Flore Simon qui ont contribué et participé à son élaboration. Merci, bonne soirée.